네, 다 봉월샵에 출전해. 지지 취재당 집에 로봉봉.
Voilà, et la première des choses dont il est question ici, les instructions nous disent, il faut rejeter le maître spirituel qui, dans quelque action que ce soit, manifeste l'influence des huit, alors là on lit des huit caractères profanes, mais c'est plutôt des huit préoccupations ordinaires. Voilà, les huit préoccupations ordinaires, en fait, c'est le fait d'être préoccupé par l'obtention de son bonheur, mais c'est aussi être préoccupé par ne pas l'obtenir, c'est être préoccupé par l'obtention de biens, être préoccupé aussi par le fait de ne pas les obtenir, être préoccupé par l'obtention de louanges, comme être préoccupé par la rencontre avec des critiques. Oui, bien vivre ou vouloir que l'on nous apprécie, trouver pénible que l'on nous critique. Non, voilà, c'est un. Non, voilà, c'est un ensemble en fait d'attitudes très ordinaires où nous sommes préoccupés. Non, ce dont il est question ici, c'est que eh bien, si un maître spirituel se présentant comme tel est préoccupé par ces choses très ordinaires qui tournent autour de sa personne, en fait, eh bien, il nous faut savoir abandonner un tel maître spirituel. Alors, par rapport à ça, il est bien clair, Dilama, qu'il est, oui, nécessaire d'avoir un maître spirituel, mais en même temps, il y a un dicton qui nous dit bien que si l'on ne sait pas observer et examiner les qualités de ce maître spirituel, cela revient à boire du poison. Donc, ça dit bien que oui, nous en avons besoin, mais il nous faut être très prudent. Non. Oui, il peut y avoir des individus très habiles qui se présentent sous l'aspect de quelqu'un d'érudit, oui, qui connaît les choses, mais qui, grâce à l'habileté des mots employés, peuvent plus aisément aussi tromper autrui. Il y a un dicton tibétain qui le dit en disant, on pourrait peut-être l'exprimer ainsi, en disant, l'érudit ou l'érudition apparaît dans celui ou celle qui enseigne le dharma de la même manière. Le semblant du méditant apparaît dans le singe qui prend la pose. Non. Oui, il nous faut donc observer un maître spirituel, voir dans quelle lignée il s'inscrit. D'abord, s'il s'inscrit dans une lignée de transmission, c'est-à-dire si ce qu'il enseigne vient effectivement d'une transmission sous forme d'initiation, d'instruction, de transmission orale, si ensuite ce qu'il professe ou ce qu'il dit le met-il en œuvre ou pas, pratique-t-il ce qu'il énonce, c'est tout cela qu'il nous faut observer.
Non.
Alors là, il y a une parole du Bouddha qui dit clairement n'observe pas ou ne n'observe pas les mots, mais observe leur sens. Et n'observe pas le titre de l'individu, mais observe l'individu lui-même, la qualité de l'individu.
Non.
Oui, et donc ça dit bien que ce n'est pas le titre de l'individu qui doit être considéré, c'est bien la qualité de l'individu qui doit être considérée. On peut donner un exemple simple. Il peut y avoir un vendeur d'or qui a la réputation de vendre de l'or de grande qualité ou du piètre or. Mais ce qui compte vraiment, c'est d'observer ce qu'il vend. Oui, et donc c'est une façon de dire que à la fois le titre n'est pas le critère, pas plus que l'aspect n'est le critère, porter tel habit ou tel autre, avoir un aspect de moine ou de nonne ou un laïc, cela n'importe pas, être un homme, une femme, cela n'importe pas. Ce qui est important, encore une fois, c'est ce qui est transmis, cela vient-il d'une lignée authentique de transmission, et cet individu met-il ou pas en œuvre ce qu'il professe. Ce sont là fondamentalement les critères.
Tenez, sem tang nyam la nope koryo tang zhongi pong sere. Da sem ngarong sem tang de nyam la no ba jingi yina kor yina yi yo bo yo mo yina yi zhu yina yi de pong gori se.
L'instruction d'après, il faut rejeter les compagnons ou compagnies plutôt et entourages nuisibles à notre esprit et notre expérience de la méditation. Ensuite, il faut rejeter les lieux et les monastères en lesquels abondent distractions ou dangers. Je demandais juste au lama un éclaircissement parce que ça peut faire bizarre de lire les monastères en lesquels abonde distraction ou danger. Simplement ici parce que, dit lama, le terme même de gompa vient en fait étymologiquement du mot qui désigne le lieu retiré, le lieu solitaire. Mais c'est une façon de dire que même si c'est un lieu retiré, solitaire, si ce lieu et d'une manière ou d'une autre encourage la distraction ou est un danger pour la personne qui s'y trouve, dans ce cas, cela n'est pas un lieu propice.
Non.
Oui, là, c'est en fait assez clair de ce point de vue. Et donc, né, ça veut dire les lieux, mais c'est aussi les villes, les villages, n'importe. Mais de nouveau, toujours le critère étant la qualité, ou alors au contraire, là, en l'occurrence, les dangers ou les distractions qu'il peut y avoir dans un lieu qui sont, dans ce cas-là, inopportuns. Ensuite, de nouveau, c'est assez clair, il faut rejeter les moyens de subsistance, donc de survie, hein, de vie, en relation avec l'escroquerie ou le vol. Voilà, alors la précision qu'on peut donner, c'est qu'en tibétain, on parle de kuncho yogyu. Et kuncho, c'est vraiment le voler et dérober, donc différents types de larcins. Et puis yogyu, c'est vraiment la tromperie. Donc finalement, c'est tous les moyens d'existence impropres. Donc ces moyens, il nous faut évidemment les abandonner. Non, et yodyu, ici le terme en tibétain, c'est vraiment aussi les moyens qui se présentent comme une personne qui se présente comme voulant nous aider, mais qui finalement cherche à retirer un avantage pour elle, en gros. Et donc tout cela fait partie du terme de
yodyu.
Non, oui, Yodu, c'est vraiment celui ou celle qui se présente en disant « Je vais t'aider », mais en fait, c'est à elle qu'elle pense. Il y a toujours une possibilité de se méprendre entre ce qui est la vérité et ce qui est mensonger,
bien sûr.
Ensuite, alors, quelque chose qui est un peu commun de ce qu'on a déjà vu, il faut rejeter les actions nuisibles à notre esprit, cette fois c'est les actions, et notre expérience de la méditation, ce qui ne les favorise pas, en fait. Dans le même esprit, mais pour le corps, rejeter les aliments et les façons d'agir, ou les modes d'être, on pourrait dire, les modes d'action, nuisibles à notre santé.
C'est ça pour le
là, on s'est volé. Ensuite, il faut rejeter
rondo, c'est rondo, c'est un rondo. Rondo, qui est tienne, c'est rondo. Rondo, rondo, tu viens que de bas la tienne, c'est là dans yoga la sope connaît.
Ensuite, il faut rejeter l'attachement qui nous lie par avarice aux objets du désir. Mais ici, donc, dundun peut être traduit par objet du désir, mais dundun, c'est aussi. C'est aussi, dit Lama, ce qui vise à l'obtention pour soi. Hein, on pourrait presque dire le désir égoïste, en fait. Et dans ce cas-là, eh bien, rejeter cela, cet attachement à cela, à cet attrait pour soi. Ensuite, il faut rejeter les comportements légers et irréfléchis qui font perdre confiance à autrui. Ici, on parle vraiment de parole, mais des pas. Oui, c'est vraiment les autres. Hein. C'est vraiment le comportement que l'on observe à l'égard d'autrui. Et là, l'idée, eh bien, c'est de faire en sorte que autrui pense que nous soyons dignes de confiance, mais pas en vue de le tromper, mais agir donc, non pas agir par légèreté, ce qui ferait qu'autrui puisse douter de nous.
Jinda mek kashe de ngal lemba tsa ni mek na me ta ga ta kon de ngal ga yo mar sam na
la sa la
te par ma ga wa ge jo te kan ge che yo resen pa me pe jo lo mre se la
la sa la oui parce que l'idée ici c'est de ne pas déplaire de ne pas déplaire à autrui de ne pas faire quelque chose qui n'aille pas finalement dans ce qu'il est capable de recevoir. Il pourrait aussi s'imaginer que tout à coup on ne l'aime pas parce qu'on ne prend pas soin à notre comportement à son égard, alors que voilà, il n'y a pas de raison.
Tate no jitani ngang san kondin ni konsam tam je chena tani pame res. Tene tende chena tani mato gagma res.
Ici le terme utilisé c'est le terme de pame. Pame c'est en fait, c'est pas tout à fait l'inattention, mais c'est en fait, nous on le dirait en français, faire tout ce qui passe, tout ce qui nous passe par la tête, le faire. Donc c'est, on pourrait dire, un manque de considération. C'est-à-dire, on ne fait pas attention dans ce sens-là. On se dit qu'on a envie de faire quelque chose, on le fait. On se dit qu'on a envie de dire quelque chose, on le dit en se disant que cela suffit. Et donc, cela veut dire qu'on ne donne pas beaucoup de place à la manière dont l'autre va pouvoir recevoir ce que nous produisons. Non. Donc l'idée est de cultiver cette espèce de, on pourrait dire, quand même un maintien, comme une attention que l'on porte aux actes que l'on produit à l'égard d'autrui. Et si donc nous sommes, dit Lama, avec de nombreuses personnes, on dira que l'on porte attention à sa parole.
Non,
parce que c'est une façon de dire que quand nous sommes dans des relations forcément sociales, et dans ce cas, la parole est très déterminante. Ce que nous dirons, la manière dont autrui entendra ce que l'on dit, et une parole qui n'est pas réfléchie et qui est dite, c'est trop tard, elle est dite, donc cela a des incidences.
Non,
et un mot qui est sorti de la bouche, on ne peut pas le rattraper, le remettre dans la bouche. Il est dit. Non, je vous dis ça parce que ça me fait penser à un dicton d'Ilama qui justement joue sur l'image de quelque chose qui nous sort comme ça. Donc, porter attention à ce que l'on dit est important de ce sens, parce que ça veut dire qu'en arrière-plan, nous nous demandons, nous avons suffisamment de vigilance pour nous demander si ce que nous allons dire porte son juste effet, si cela va être compris, si cela va être bien compris, etc. Et la deuxième partie du dicton, la première c'est donc quand je suis avec de nombreuses personnes, je porte attention à ma parole. La deuxième partie c'est quand je suis seul, je porte attention à mon esprit. On porte attention à son esprit. Tout en considérant qu'évidemment, c'est un entrelac de pensées extraordinairement variées, des lamas qui sans cesse nous parcourent avec des pensées qui peuvent être vertueuses, des pensées qui ne le sont pas du tout, et tout ça est normal. Mais l'idée est justement de porter attention à ce qui tout simplement est pensé, on ne parle pas là d'une pensée réflexive, mais ce qui est pensé, tout ce qui surgit dans l'esprit de manière très naturelle. Et donc, ce que l'on repère comme étant ou comme allant dans le sens de la vertu, le cultiver, prendre soin de cela, mais ce que l'on voit aussi être inutile ou n'avoir aucune portée particulièrement vertueuse, bien savoir aussi abandonner cela. Donc, là, il est question, donc, de nouveau, de cette attention que l'on porte à soi. Oui, parce que finalement, c'est bien de cela dont il est question, et d'autant plus quand nous demeurons apparemment dans une retraite solitaire. Prenons l'exemple de quelqu'un, n'importe, qui fait cette retraite solitaire, quelle que soit sa durée d'ailleurs, et qui ferme portes et fenêtres. Eh bien, il peut être là, dans une posture apparemment très concentrée, et s'adonner à cette retraite en solitaire, et pourtant être en train de vagabonder, d'être préoccupé d'une manière constante et sans arrêt par les affaires ordinaires, c'est-à-dire soit par les amitiés qui, à sa manière, le perturbent, ou par ses inimitiés qui, à leur manière, le perturbent, et finalement se rendre compte que les pensées ne sont jamais arrêtées ni par les portes, ni par les fenêtres. D'où l'idée, si nous sommes seuls, de porter attention à son esprit.
Sem dang nyam la nope le da ja wa ponte la sa lo kon la nope le da ja la ponte la sa don di se ne ba te da sa par me de pe ja la ponte la sa lo ta to me ndo ke le da ja wa pon so re.
Et ensuite, il faut rejeter les déplacements et les séjours non justifiés, non utiles. Voilà. Là, on peut rester plus littéral, parce que ici, en tibétain, on parle de tonme, et ça veut dire vraiment ce qui est inutile. C'est pas tellement non justifié, hein.
Non,
oui, là, dans le commentaire du lama, c'est en fait, on pourrait dire, c'est les agitations, c'est tout ce qui apparaît comme agitation futile, c'est-à-dire comme il le dit ici, tout ce qui finalement n'est pas vraiment utile à notre vie en termes, on pourrait dire, de progrès spirituel, mais qui n'est pas non plus utile à nos vies futures et qui n'est pas vraiment utile à autrui. Et donc, c'est une espèce de déplacement, on dirait brasser de l'air, en fait, hein. Donc, c'est s'agiter et s'exciter dans tous les sens, mais finalement, sans beaucoup de but et de sens.
Non.
Il me dit, t'as compris, ça veut dire. Voilà, et la suite. Il faut rejeter l'habitude de proclamer les fautes d'autrui tout en dissimulant les siennes propres. Voilà, là, le sens est assez clair, dit Lama. C'est vraiment dissimuler. On cache en soi tous nos défauts. Par contre, on va faire une grande publicité des défauts d'autrui.
La ma jumbo na sarpo som yori. Rong chong rivo tsang yon khu de bais. Nga yon ka rong la chong re tsam di yon na khu la bais de gendo. Yon chong ten pe tsam di yon na te dro chi mo se pe pe me te pe ya kong mo mo dro ki es.
Oui, ça fait la pensée. Hein, ça fait la pensée, dit Lama, un passage du Lama Gyanpo. Lama Gyanpo, c'est l'appel au Lama de loin, qui est une pratique que l'on récite le matin aussi, qui est une prière d'invocation au maître spirituel. Et à un moment donné, il y a un passage qui dit nous voilà celui ou celle qui dissimule en soi une montagne de défauts. Mais c'est Rirab dans le sens, c'est la montagne axiale, c'est-à-dire une montagne cosmique de défauts, alors que nous parlons sans cesse et nous faisons grand bruit du petit grain de moutarde que l'on décèle chez l'autre.
Non.
Alors évidemment, ce sont là donc 10 choses à abandonner ou rejeter.
Non.
Non. Ensuite, 11 choses ou 10 choses, ça dépend comment on le traduit ici, à ne pas rejeter.
Non.
Premièrement, la compassion étant la racine de l'accomplissement du bien d'autrui, eh bien, elle ne doit pas être rejetée. Voilà, a priori, c'est bien sûr clair, mais là, la compassion, dit Lama, c'est aussi une aspiration, c'est se dire, mais que ce serait bien extraordinaire que de voir tous ces êtres, et d'autant plus les êtres qui errent dans les états d'existence défavorables, être libres de ces états, être libres de leurs souffrances, être libres des causes même de leurs souffrances. C'est vraiment une compassion qui porte, qui fait que l'on porte ce regard sur la condition des êtres.
Non.
Et là, l'auteur la place, cette compassion, comme à la racine, évidemment, la racine de l'action favorable pour autrui ou bénéfique. Deuxième instruction, les phénomènes étant le rayonnement de l'esprit lui-même, ils ne doivent pas être rejetés. Les nanwa, ici, c'est la manifestation, tout ce qui se manifeste à notre conscience.
Non.
Ici, c'est vraiment, dit Lama, quand on parle de Nanwa, c'est toute la manifestation phénoménale. Tout cela, c'est Nanwa. Tout cela, c'est de la manifestation. Et d'ordinaire, bien sûr, que nous allons percevoir cela comme si cela possédait une réalité en soi. Mais finalement, on peut vraiment en parler comme étant la manifestation de la clarté et de l'esprit, dans le sens d'une, comme d'une projection. Ce n'est rien d'autre que cela. Mais là, ce qui est dit est bien sûr très subtil parce que ce n'est pas du tout, donc ça n'encourage pas du tout à développer une attitude où nous nous dirions bien toute la manifestation phénoménale. Tout cela est illusoire, donc cela est illusoire, et donc de ce fait, il me faut abandonner tout cela, me défaire de cela, comme s'il s'agissait de se défaire d'une illusion qui nous encombre. Ce n'est pas cela qui est indiqué. Ce qui est indiqué, c'est reconnaître la nature de ce qui se manifeste, et donc reconnaître aussi la simple ou l'évidente vacuité des phénomènes. Et une fois qu'elle est reconnue, alors il n'est pas nécessaire de vouloir se défaire de la manifestation. dès lors que l'on comprend l'essence de la manifestation.
Non.
À partir du moment où nous avons fait tout ce chemin qui nous permet d'examiner, d'analyser justement, bien, on pourrait dire le principe de réalité qu'ont de nos choses, et où nous comprenons vraiment que tout phénomène est libre d'existence propre, mais ce n'est pas une élucubration, on comprend vraiment ce que l'on veut dire par là. Dans ce cas, eh bien, il n'y a plus de nécessité, on pourrait dire extérieure, de penser vouloir s'affranchir des phénomènes dès lors qu'on comprend qu'ils sont par nature libres d'existence propre. Non. Et comprendre que même s'ils sont libres d'existence propre, cela n'empêche pas du tout qu'ils se manifestent, bien au contraire. Et là, ça nous fait revenir à une parole fondamentale que l'on trouve dans le cœur de la sagesse transcendante, qui résume à lui seul tout le sens de la vacuité, qui nous dit, eh bien, les formes, dans le sens des objets du sensible, sont la vacuité. Il n'y a d'autre vacuité que celle-là. Et donc, la deuxième partie de cette phrase, c'est de dire, il n'y a donc aucune autre vacuité que celle présente, on pourrait dire, dans la manifestation du sensible. Mais il n'y a pas, et c'est la phrase d'après, mais il n'y a pas non plus une vacuité autre que celle qui est manifestée par la manifestation, et donc les objets du sensible. Non, et donc ça nous fait revenir à l'instruction, quand on dit « nanwa », c'est-à-dire cette manifestation, vu qu'elle est l'esprit, donc quand on a bien compris ce que ça voulait dire, eh bien dans ce cas, il n'y a pas de nécessité à vouloir l'abandonner.
Non.
Et dans le même esprit, l'instruction d'après, les pensées étant le jeu de la vacuité, elles ne doivent pas être rejetées.
Non.
Et là, c'est le même processus, dit Lama. Les phénomènes mentaux ne sont pas autres que l'esprit, et l'esprit n'est pas autre que les phénomènes mentaux. On peut le dire d'une autre manière, dit-il. À partir du moment où les phénomènes mentaux sont laissés pour ce qu'ils sont et l'on n'est plus sous leur pouvoir, dans ce cas, eh bien, il n'y a pas de problème.
À quoi ça?
Vous voyez?
Tenez,
Non. Et on est toujours là dans le même esprit. Les émotions perturbatrices, cette fois-ci, étant ce par quoi il est possible d'atteindre à la suprême connaissance ou la suprême connaissance, elles ne doivent pas, donc ces émotions perturbatrices, être rejetées.
Non.
Ici, bien sûr, quand on parle d'émotions perturbatrices, ce sont aussi des phénomènes mentaux, évidemment. Donc là, de nouveau, si on les laisse comme, si on les considère ou on les laisse telles qu'elles sont, c'est-à-dire on les voit comme étant la nature de l'esprit, il n'y a pas d'autre
problème. Non.
Donc c'est une... D'une certaine manière, on pourrait dire aussi, on laisse les phénomènes mentaux ou les émotions perturbatrices dans leur nature, sans pour autant s'en servir ou être utilisé par elles, finalement.
Non.
Il y a l'idée aussi de voir leur essence. Dès lors que leur essence est vue, elle se dissipe. Donc, ça nous dit aussi que cela va à l'encontre de ce qu'en général on s'imagine, c'est-à-dire où on se dit, s'il y a des phénomènes mentaux, ce n'est donc pas la méditation, et s'il y a absence de phénomènes mentaux, c'est la méditation. Mais ce n'est pas là le critère. Le critère, c'est dans la reconnaissance qui est la nôtre de la nature des phénomènes mentaux. On trouve aussi une parole très éclairante de ce point de vue dans les souhaits du Mahamudra, où il est dit, la première partie de cette strophe dit, quoi qui s'élève en l'esprit, il nous suffit en fait de l'observer et d'en regarder l'essence.
Matu sena pono matu serva. Tin nom to doporesa no pa pongo manos, yaporesa sol lingo matu. Te pono chena kuitorva.
Non.
Te matu se, te ga kon nom to zongi chema to se nom to res.
Non.
Te zotu kayo majena, te ga ngo la ketje tati ya.
Non.
Se doa.
Non. Et la strophe poursuit en disant.
Te ga na gomja gomja lota. Non.
Et donc, la strophe se poursuit et dit, à cet instant, n'altère pas, ne modifie pas. Et l'idée ici d'altérer, de modifier, dit Lama, eh bien, en fait, c'est l'interaction que l'on veut alors produire avec un phénomène mental. Où il serait question, nous imaginons les choses ainsi, qu'il nous faille soit abandonner le phénomène mental, soit au contraire s'en servir parce que nous pensons qu'il est bon et il est juste. Et donc finalement, l'instruction nous dit, n'altère pas, dans le sens, ne modifie pas, ne cherche à rien faire de particulier, et libère-toi alors de l'idée même de la méditation, c'est-à-dire d'une construction mentale de ce que l'on pense être la méditation. Et en fait, la strophe, elle est tournée de manière à ce que cela devienne un souhait. Puissais-je réaliser cette méditation libre d'une méditation où rien n'est altéré, où seul est reconnu, on pourrait le dire comme ça, où seul est reconnu l'essence même de ce qui s'élève. Non. Donc, dans ce sens, les émotions perturbatrices étant ce par quoi il est possible d'atteindre cette suprême connaissance, elles ne doivent pas être rejetées.
Non.
Cela veut dire aussi que quand elles sont vraiment reconnues dans leur essence, eh bien, à travers elles s'élèvent les différentes sagesses.
Non.
Voilà, de
nouveau. Non.
Donc ici, c'est vraiment, en plus Lama utilise le terme de ce qui incite, c'est-à-dire que les émotions perturbatrices, en fait, c'est comme si elles invitent, c'est comme si elles incitent à se manifester, ou plutôt incitent les sagesses primordiales à se manifester. Donc il n'y a pas l'idée de vouloir se défaire cela, mais encore une fois, simplement reconnaître cette essence qui révèle ensuite cette sagesse qui s'y trouve.
Non.
Bah, par exemple, on dira de la colère que si on l'observe dans son essence, déjà rien que cela va faire qu'elle se dissipe, mais cette essence qui elle est alors vue comme clarté naturelle de l'esprit va faire que se révèle alors et s'élève alors la sagesse dite semblable au miroir.
Et
Et donc, cela est valable pour toutes les émotions perturbatrices. Si l'on prend les cinq émotions perturbatrices fondamentales, désir, attachement, et aversion, opacité mentale, avarice, et, ou jalousie plutôt, et orgueil, eh bien, selon ce sont alors cinq poisons. Mais si l'on en reconnaît l'essence et qu'on la réalise, alors on parlera des cinq
sagesses. Jadab yishi danga, zatini yishi nga segdo. Kuru ti ta dhammada, ta na yishi nga mada, na nyamon nga res.
Non, d'accord. Voilà, et donc quand on en réalise les cinq sagesses, eh bien on parlera de la sagesse semblable au miroir, de la sagesse tout équanime, de la sagesse de la dharmata ou de l'incité, de la sagesse tout accomplissante, de la sagesse discriminante, pas dans le sens de discrimination, mais dans le sens qui voit véritablement la nature propre de chaque phénomène. Et donc en clair, dit Lama, eh bien soit nous sommes illusionné par la façon dont ces émotions perturbatrices se présentent, et dans ce cas-là, c'est l'aspect, on pourrait dire, impur de l'esprit, mais si nous les voyons vraiment dans leur nature ultime, eh bien, alors, nous en réalisons les différentes sagesses. En même temps, ce qui est dit, c'est que de toute façon, on ne va pas pouvoir comme cela décider d'abandonner les phénomènes mentaux. C'est impossible. Donc, l'idée est d'avoir une autre attitude et de vouloir en reconnaître leur essence. Et dans ce cas-là, eh bien, elles se révèlent dans ce qu'elles sont.
Non.
En plus, dit Lama, il se trouve que si l'on veut abandonner les phénomènes mentaux, cette idée de l'abandon des phénomènes mentaux est un phénomène mental.
Non.
Alors que si l'on observe simplement l'essence des phénomènes mentaux, on découvre que les phénomènes mentaux, les pensées, n'importe, tout cela est libre d'une base, d'une racine. Et dans le même sens, les objets d'essence étant l'engrais des expériences et de la réalisation, eh bien, ils ne doivent pas être rejetés. Non. Et on poursuit. Les souffrances et les maladies étant pour nous un maître spirituel, elles ne doivent pas être rejetées. Comment cela se peut-il? Voilà, c'est ce qu'il nous a dit, on en a besoin finalement. Parce que voilà, ces souffrances et ces maladies sont des maîtres pour nous.
Non.
Alors évidemment, ce qu'on doit comprendre, c'est le pouvoir incitateur, on pourrait dire, de ces difficultés, de ces souffrances, parce que cela nous ouvre à une dimension spirituelle.
Non.
Et c'est donc pas du tout un hasard que si l'on regarde toutes les vies des grands accomplis et accomplis du passé, eh bien c'est très souvent à travers des difficultés conséquentes dans leurs existences qu'ils auront compris quelque chose de la vanité et des aptitudes ou des activités ordinaires qu'ils auront alors cherché le sens ultime.
Et
pour nous, cela opère de la même manière. C'est-à-dire que les difficultés, les souffrances qu'on rencontre, elles sont aussi l'occasion qui nous est donnée, si l'on veut s'en servir ainsi, eh bien de réfléchir sur le sens même des actes, sur le sens des conditionnements, sur Voilà, et cela va nous donner aussi cette possibilité intérieure d'agir alors dans un sens beaucoup plus spirituel. Donc, de ce fait, elles peuvent alors se présenter telles des maîtres spirituels pour nous.
Non,
voilà, oui, c'est des fois un peu étrange. On peut voir des vieux pratiquants, ça me fait penser là tout à coup, Dilama, des personnes qu'on peut voir par exemple en Orient. Parfois, plus ils deviennent riches, mais finalement, plus ils abandonnent et ils oublient le Dharma.
Mais en même temps,
dès qu'il leur arrive un ennui, ils se souviennent du Dharma. Ah ouais, non, quand même. Et donc, ils vont faire une offrande à un lama, ils vont vouloir construire un temple. Voilà.
Non.
Puis après, ils vont demander une divination, parce que quand même, ils trouvent qu'il leur arrive bien des ennuis. Et donc, quand on fait une divination, il y a toujours quelque chose qui tombe. Donc, voilà. Donc, pour dire que finalement, ces situations-là deviennent des incitations, dans ces cas, eh bien, pour repenser au Dharma. Oui, et c'est vrai que certainement que le plus grand nombre de bouddhistes, on va les trouver en Chine, hein, de fait. Ils ont beau avoir été baignés dans une culture communiste pendant très très longtemps. Étonnamment, il y a une grande foi, confiance, peut-être d'ailleurs en rapport à cela, dans le Dharma, et du point de vue de l'utilité, du point de vue de ce qui est fondamentalement présent dans le Dharma, il n'y a aucun doute pour eux.
Non,
ce qu'on lit ici s'applique vraiment bien parce que on voit ces personnes qui vont d'une manière ou d'une autre faire une offrande dans un temple, soutenir le Dharma d'une manière ou d'une autre et donc chercher finalement, et peut-être aussi grâce aux difficultés rencontrées, à donner du sens.
C'est
vrai qu'il y a parmi eux des personnes immensément riches. Alors, bon, bien sûr qu'à travers leur activité, il y a aussi beaucoup d'activités négatives. Mais en même temps, il y a aussi une grande activité de générosité. Et donc, ils s'arrangent aussi pour utiliser leurs biens, leurs richesses, en direction, on pourrait dire, d'actes positifs. Et puis aujourd'hui, la situation est telle qu'on pourrait dire que les plus grands donateurs des maîtres bouddhistes sont les riches chinois.
Non,
mais c'est incroyable. Et parfois, il suffit de dire que, pour accomplir telle activité ou construire tel temple, il y aurait besoin de temps, et une donation qui arrive. Voilà, donc finalement, c'est des vieux pratiquants aussi, dans le sens où il y a une vieille culture, une vieille culture bouddhiste. Donc, il y a aussi cette conscience qu'il y a quelque chose de bien qui va découler de cette action positive.
Voilà.
Alors la situation en Occident est différente parce que le Dharma est très neuf, donc on ne peut pas dire qu'il y ait une vieille culture bouddhiste en Occident. Et il y a pourtant des conditions mais vraiment excellentes de pratique. Le dharma qui est pratiqué est vraiment excellent. La seule difficulté pour l'instant, c'est des doutes. Il y a encore beaucoup de doutes, en fait. Ensuite, les ennemis et les obstacles étant une incitation à la reconnaissance de la nature vraie des phénomènes, ils ne doivent pas être rejetés, si ce n'est qu'en tibétain, on parle de dja gek, et les dja, c'est les ennemis extérieurs, et les gek, c'est les ennemis intérieurs. De nouveau, ici, ils sont vus comme incitation à la pratique spirituelle. Ils sont comme cela. Voilà, et ici c'est bagek, c'est-à-dire ces obstacles ou ces ennemis extérieurs ou intérieurs. On pourrait dire aussi des ennemis qui possèdent une forme ou ceux qui n'en possèdent pas, hein. On pourrait dire matériel ou immatériel, on pourrait le dire aussi comme ça. Eh bien, dit Lama, là, de nouveau, incitation à la pratique du dharma, parce que déjà, cela va nous permettre de réfléchir à la loi de causalité et comprendre que nous participons d'une certaine manière à ces situations. S'il n'y avait pas, à un moment donné, dans nos existences passées, une interaction qui fasse qu'ensuite, dans notre existence, là, maintenant, cela puisse se manifester, eh bien, ça ne se manifesterait pas. Il faut qu'il y ait un conditionnement pour qu'ensuite, il y ait la manifestation de ce conditionnement. Mais bien sûr qu'on n'en reste pas là, parce qu'ensuite, ils sont une incitation à apporter une réponse à cela. C'est-à-dire, par exemple, ça peut aller de la générosité qu'on développera à l'égard des trois rares et sublimes, mais aussi du développement de l'amour et de la compassion en vue, donc aussi, de se purifier de ces conditionnements, etc. Non. Ensuite, ce que l'on reçoit sans le rechercher étant un bienfait de la pratique, ben, cela n'a pas à être rejeté. Là, c'est les biens, mais par exemple les biens matériels. Admettons qu'on reçoive naturellement des biens matériels, il n'y a pas non plus une espèce de nécessité à vouloir les abandonner. Ils sont aussi vus comme accomplissement.
Tablam kari yinayon, tablam koyon, shirupke, lomtik, yimbe, me bon,
d'accord. Ensuite, la voie des œuvres, alors peut-être que Lama commentera.
Tabsamo, l'homme samo, le bas. Tabsamo, l'homme samo. Tanto kari yinayon, tanto.
Voilà, ici, dans le sens des moyens profonds, des voies profondes, on pourrait dire aussi les pratiques, les techniques, etc. Tout cela, donc l'acte, on pourrait dire, les actes spirituels, donc tout cela... permettant que s'élève la connaissance transcendante ou la connaissance, eh bien, les actes ne doivent pas être rejetés. Ensuite, l'activité physique qui peut être mise au service du dharma ne doit pas être rejetée. Ensuite, même si nous ne disposons que de faibles moyens, la pensée de l'accomplissement du bien d'autrui ne doit pas être rejetée.
ngaro nohi je ke yen yendo dup thug mare sam sam chom ko mare
so voilà là dilama c'est une indication à ne pas pas seulement se décourager mais aussi ne pas se déprécier et ne pas entrer dans l'idée que eh bien une personne telle que nous de toute façon elle ne peut prétendre à rien donc elle n'est pas capable
pendant ngaro la junan ne me ngaro la yandin ne me ngaro oncha ne me de quand quand mais de yendo ga de top yendo nik de mare ça ne sem chim je ji o mare ne pas mais na yo yendo lo de tan ponji o mare
non. Oui, là, c'est vraiment pour contrecarrer cette attitude où nous pourrions nous dire, de toute façon, je n'ai aucune qualité, je n'ai aucun moyen, je n'ai aucun bien, comment pourrais-je prétendre à accomplir le bien d'autrui ? Et se déprécier. Donc non, étant donné que eh bien, même cette pensée altruiste est un bien propre, et il n'y a pas à se déprécier.
On a l'air d'un bêtre qui est né, on a l'air d'un bêtre qui est né, on a l'air d'un bêtre qui est né, sondu da zopa la kishok ke na mundop pa yina yondop sigres mundop chaba na ji yo mare se
non après il y a en plus le fait dilama qu'il n'y a vraiment rien d'impossible on peut vraiment tout accomplir à partir du moment où nous y plaçons l'énergie où nous y plaçons la patience est suffisante et bien on peut vraiment prétendre à toute forme d'accomplissement. Non. Et voilà, donc telles sont les 11 choses à ne pas rejeter. Ensuite, les 10 choses à connaître.
Chi nonde sem chorde no chon nores
la so non
de demba madre pas chi kono sonre
la so. Voilà les 10 choses à connaître. Donc la première des choses, à l'extérieur, les phénomènes étant illusoires, ils doivent être connus comme libres d'existence propre.
Non ge sem semni c'est sem de ce le garon semni dangme de dope
Non, voilà. Ensuite, eh bien, à l'intérieur, l'esprit étant dénué d'existence propre ou intrinsèque, il doit être reconnu comme étant vacuité. Voilà. Bon, mais bon, c'est quoi la vacuité hein? Non, là, bien sûr, l'idée, c'est de connaître cette vacuité, savoir ce qu'est cette vacuité. Quand on dit vacuité, en fait, on parle du dharmakaya, c'est-à-dire du corps de vacuité, de la nature des phénomènes.
Et
quand on dit dharmakaya ou corps de vacuité, c'est le Bouddha. Et de nouveau, là, ça nous fait revenir à ce fameux texte, l'appel au lama de loin, qui dit, quand les phénomènes, quand mes pensées s'élèvent, je ne les reconnais pas comme, plutôt, mon esprit, je ne le reconnais pas comme le Bouddha. Les phénomènes mentaux, les pensées qui s'élèvent, je ne les vois pas comme le dharmakaya. Et on pourrait dire leur substrat, ou dans le sens de leur essence, n'étant pas reconnu, je ne laisse pas l'esprit demeurer dans sa disposition naturelle. Non. Ensuite, entre les deux, les phénomènes mentaux qui apparaissent, c'est-à-dire entre les deux, c'est-à-dire ces interactions entre la conscience et les phénomènes extérieurs, pourrait-on dire, les phénomènes mentaux qui apparaissent de la réunion fortuite de tout élément, des éléments, doivent être connus comme contingents, c'est-à-dire comme résultant de cette rencontre des éléments.
Jin a ralek do. Jin chigle tena lower pa nom do lower pa chires.
No.
Te ko ngone nom to senke te yongsa da desa da rosa ngone tena nom to senke te yo mando te ina jin chigle tena teni nom to te yongyo res.
Na so. On peut le dire autrement en comprenant que simplement, Dilama, ben, tous les phénomènes mentaux vont toujours dépendre des circonstances. Et ça indique quelque chose de très important. Pour dire qu'un phénomène mental n'existe jamais d'une manière autonome et en lui-même. Il est toujours dépendant des causes et conditions. Donc en fait, si l'on regarde vraiment dans l'essence d'un phénomène mentaux, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de lieu où il va naître, de lieu où il va demeurer, de lieu où il va cesser. Il est toujours en rapport à des circonstances.
Pena yido onbe onbe netsurche la tene doja le yongor.
Non.
Kinte la tene.
Non. Alors, en le disant de manière très très simple, si nous voyons quelque chose que nous percevons comme agréable, s'élève en conséquence, on pourrait dire, quelque chose qui peut être de l'ordre de l'attachement, tout simplement.
Teda tembe kini la tene yong doja yongor.
Donc une personne que l'on voit, que l'on considère comme agréable ou attrayante, eh bien, on va en ressentir bah, l'émotion correspondante, on pourrait dire. De la même manière, la haine ou l'aversion, elle va s'élever dès lors que l'on voit, perçoit quelque chose que l'on considère comme néfaste.
Tel le sopé. Tenez, nom d'autant de son mari, qui n'a mis n'a pas la tête, nom d'autant n'a mis n'a pas la tête.
Non. Et donc, il n'y a pas une de nos émotions ou de nos pensées ou phénomènes mentaux qui s'élève hors des différentes circonstances qui font qu'elles se manifestent.
Pour moi, tu es toi, là.
Oui.
Oui. L'esprit étant des nœuds d'existence intrinsèques.
Vous avez compris dans le fond la
mais
question
non, pas.
D'accord, je vous aurais... Non, mais je... donc la question, elle porte sur l'instruction d'avant, où il est question de, à l'intérieur, l'esprit étant dénué d'existence intrinsèque, il doit être connu comme étant vacuité. Donc dans ce cas-là, comment pourrait-on le stabiliser? Tachin reola tene, pechana la tene, nangi semni tene dame du dupe. Tum para che par già voilà. Tene regola tene capte. Tene morong se gedu tene quel site ne sem sengen de tene ngo ma duba insan sem kande ne tu dire voilà. Quand ça na sem ma duba insan tene ne du kan ya mare voilà.
Non que semi quand son quoi.
Te regola tene nangi sem.
Nazo que tada da sengen de doa.
Non. Bon, ici, l'idée, c'est de pointer... Non, là, de manière plus simple, ce dont il est question ici, c'est la notion du je. Dire que le je, comme une chose en soi, n'existe pas. Mais on médite en tant que je. Mais on peut s'interroger. Que médite-t-on lorsque nous demeurons comme cela, les yeux fermés? Et que l'on s'inscrive dans une démarche qui sera celle du Hinayana ou du Mahayana, donc petit ou grand véhicule, le but du jeu, c'est de réaliser l'anatman, c'est-à-dire le non-soi. Alors là, c'est exprimé d'une autre manière, mais ce dont il est question, c'est que l'essence de l'esprit, pourrait-on dire, est le dharmakaya, c'est-à-dire c'est la vacuité. Mais c'est une autre façon de dire encore que l'esprit est le Bouddha.
Mais
c'est en même temps une façon d'évoquer que ou de répondre à la question, ben, comment devient-on un Bouddha ? Eh bien, le Bouddha devient un Bouddha, ou les Bouddhas deviennent des Bouddhas, dès lors qu'ils reconnaissent justement que l'essence de leur esprit est cette grande vacuité. C'est cela qui fait qu'ils deviennent des Bouddhas. Mais tout cela s'inscrit dans un processus une fois de plus. C'est-à-dire que d'abord, il y a tout ce chemin qui nous rend ou qui nous ouvre à l'idée de l'anatman. C'est-à-dire, là, on réfléchit aussi. C'est-à-dire, comprendre le non-soi. Et ces instructions sont là aussi pour nous permettre d'aborder la méditation en se défaisant de ces idées préconçues qui nous amènent à penser que si nous n'avons pas de pensée, alors c'est la méditation, et que si nous avons des pensées, alors ce n'est pas la méditation. C'est pas du tout
clair.
C'est pourquoi ici, on pointe notre réflexion sur le soi. Pourquoi ? Parce que finalement, tout ce qui est difficile, pénible dans notre existence, tout cela ne s'élève que du fait de l'idée d'un jeu. Donc en fait, ici, c'est une manière d'indiquer que la première des choses, c'est de s'interroger sur la réalité ou la validité de ce jeu, ou de ce soi, ou de ce que l'on appellera mon esprit. Et donc en fait, eh bien, c'est vraiment réfléchir à tout ce qui nous constitue, et ça veut dire vraiment disséquer ce que l'on pense être un je autonome et intrinsèque, donc notre peau, tous les éléments qui nous constituent, se rendre compte au final, nous sommes le monde entier, en fait, nous sommes les trois domaines d'existence, nous sommes les six classes d'être à l'intérieur de nous-mêmes. On peut utiliser une autre image, on dira nous sommes un yarkon et c'est une auberge, le corps est une auberge. Non, c'est une auberge qui est louée aux quatre éléments qui le constituent. L'eau, la terre, le feu, l'air. Donc l'existence de notre corps, elle n'est pas mise en doute, mais elle est juste relative et temporaire. C'est-à-dire qu'elle n'existe là, ou le corps n'existe là maintenant, que par ce jeu, ces connexions de tous ces éléments qui se rassemblent, mais au moment où il se désassemble, eh bien cesse alors l'illusion de ce corps. Non. Et donc voilà, c'est tout un chemin. On va ainsi s'acheminer vers la réalisation des deux non-soi. Oui, c'est le non-soi. Non, c'est le non-soi des phénomènes et le non-soi de l'individu. Ce non-soi des phénomènes, eh bien, c'est de même cette réflexion sur justement ces éléments qui nous constituent chair, sang, os, etc. cette dissection, on pourrait dire, des éléments.
Ta terere da ngone da dosa ke ta ngubo ngone te kandere te ngotra se ne kong se moyen che ke chenon pas tsomal te kyo ton ton yo.
Non. Et donc, bien sûr, c'est se rendre compte que quand nous disséquons ainsi, c'est un exercice mental au départ, mais qui nous permet de prendre conscience que nous sommes constitués d'infinité de parties et que chacune de ces parties, nous pouvons bien sûr les nommer, mais en aucune d'elles ne va exister cette fiction que l'on croit réelle, qui est la fiction ou l'illusion d'un jeu. Ou alors... Nous pourrions dire que nous sommes chaque fois chacune de ces parties, mais nous aurions alors une infinité de jeux et plus un seul jeu. Manière simple là déjà d'envisager le fait que, eh bien, non, cela ne comporte pas un soi, ce corps. Donc ensuite, on peut s'acheminer vers le non-soi de l'individu, se dire, bon, alors d'accord, si les phénomènes, on pourrait dire matériels ou extérieurs, le corps, n'importe, tout cela n'est pas le soi, peut-être que la conscience est le soi, que la conscience est le
soi.
En se disant... Ok, si cela n'est ni des éléments extérieurs, ni des éléments intérieurs, donc peut-être la conscience seule est le jeu. Mais dans ce cas, qu'est-ce que la conscience? Quelles seraient les caractéristiques de la conscience? Son aspect, ses couleurs éventuelles, ses formes? Le lieu d'où elle surgirait, le lieu où elle demeurerait, le lieu en soi où elle demeurerait, le lieu en soi où elle finirait, et finalement se rendre compte que, eh bien, elle n'a ni lieu d'où elle émerge, ni lieu où elle demeure, ni lieu où elle finit. Alors, bien sûr, tout cela suppose une analyse d'abord profonde, mais constante et longue. Et tout cela pour se rendre compte déjà que, en fait, évidemment, nous saisissons quelque chose comme étant le soi ou le je, certes, mais cela ne signifie pas qu'il y ait une réalité intrinsèque à cela. C'est cela qui est dit ici. On en est arrêté. Voilà, et bien là, on arrive dans l'instruction qui va tout à fait dans ce sens. Le corps et la parole issus des éléments, mais on devrait dire issus des éléments qui le composent, en fait, eh bien, doivent être reconnus comme impermanents, c'est-à-dire transitoires et temporaires. Non, en fait, là, le rapport est fait en disant parce que cela est composé, cela est impermanent. Hein, ce qui fait vraiment penser à un fondement de la. Une idée fondamentale de la
pensée.
Non, oui. Et là, Lama cite bien sûr cette fameuse parole du Bouddha qui dit tout ce qui est composé est impermanent. Donc, les phénomènes sont composés, mais après, on va dire, ils sont, ils existent, voilà. Non. Voilà. Bien sûr, nous existons maintenant, mais au moment de notre mort, eh bien, notre corps, eh bien, c'est dans l'élément... dans l'élémentaire qu'il se résorbe. Tous les liquides, le sang, etc., dans l'élément eau. Toute la chaleur, notre, la, oui, la chaleur vitale dans l'élément feu. Tout le souffle dans l'élément vent, bien sûr. L'autre conscience, c'est-à-dire conscience discursive, etc., dans l'élément espace. Donc en fait, on pourrait dire tous les éléments empruntés au départ et qui nous constituent sont rendus d'une certaine manière pour utiliser cette image et nous nous dissipons. Et une fois que tout est résorbé, eh bien, hop, nous penchons la tête parce que nous sommes morts. Mais là, l'idée, donc, c'est d'abord simplement de reconnaître ce qui est, tout simplement. Nous sommes composés, donc nous sommes impermanents. Et comprendre que croire à la permanence de ce qui est impermanent est erroné. Alors maintenant, ça ne vous empêche pas du tout, et d'autant plus d'un point de vue spirituel bouddhiste, de considérer que le corps existant est la base fondamentale qui nous permet l'accomplissement du dharma, certes, mais il n'est pas vu pour autre chose non plus, il n'est pas vu pour autant comme quelque chose qui aurait une permanence, une valeur, ou plutôt une existence en soi, qui fasse qu'il puisse être permanent. Mais cela n'empêche absolument pas de pouvoir dire que l'existence qui est la nôtre est sublime dans le sens et nous permet l'accomplissement. Mais cela ne veut pas non plus dire qu'il nous faille nous attacher à cela comme s'il y avait quelque chose en cela qui mériterait de vouloir ou de penser pouvoir s'y attacher. Si on prend le texte des pratiques préliminaires et qui nous invite en premier lieu à réfléchir sur la précieuse existence humaine, bien on dit la phrase, on dit premièrement réfléchir à cette précieuse existence humaine, libre et bien pourvue, difficile à obtenir et facilement détruite. Il y a cette fameuse phrase de Shantideva qui nous dit, et qui nous rappelle cela, il nous le dit ainsi en disant, eh bien, entre demain et le début d'une nouvelle vie, rien n'est certain, donc demain peut-être aussi le début d'une nouvelle vie, donc dans ce cas, ne vaut-il pas mieux me préparer pour une nouvelle existence plutôt que de croire à l'existence définitive d'un demain. Mais c'est une pensée pour nous, finalement, c'est-à-dire faire qu'au moment où nous nous endormons, eh bien, s'endormir dans cette contemplation en se disant ben, peut-être que. Qu'est-ce que l'on en sait? Demain est peut-être le début d'une nouvelle vie. Qu'en sait-on? Peut-on affirmer que ce soit le début d'un nouveau jour? Et la deuxième phrase de ce texte des pratiques préliminaires, il nous dit, et deuxièmement, réfléchissons à tout cela qui est impermanent et qui est semblable, donc tous ces phénomènes extérieurs comme nous-mêmes, qui est semblable à la bulle d'eau, à la surface de l'eau, et donc aussi fragile et impermanent que cette bulle d'eau. Et
on parle qu'on ne parle pas de ce que c'est aujourd'hui.
Donc Et là, ça nous fait penser à cette parole de Nagarjuna qui utilise cette image de la lampe à beurre qui est placée comme cela au cœur de la tourmente, en quelque sorte, en disant bah, finalement, notre existence, eh bien, c'est le lieu où se rassemble tout ce qui pourrait mettre en péril, en fait, cette flamme fragile, finalement, au cœur de la tourmente. Et en fait, c'est simple, il suffit d'expirer et de ne pas inspirer, nous sommes morts, ou il suffit d'inspirer et de ne pas expirer, et nous sommes morts.
On tient que Matapa n'y a pas de
Donc en fait, il utilise cette image pour dire, mais en fait, l'impermanence, elle est à ce point-là proche de nous. Donc la mort, elle est à ce point-là proche de nous. Elle est là dans la seule expiration ou inspiration que l'on produit. Et donc, demain, le fait de voir un nouveau jour, c'est une pure merveille. Oui, et donc, lorsque l'on récite ce texte des pratiques préliminaires, c'est juste deux phrases chaque fois, mais ces deux phrases, eh bien, c'est, il nous faut y réfléchir. Non, de la même manière, ensuite on dit la troisième phrase, on va dire, eh bien, troisièmement, eh bien, on voit que l'on n'est pas libre, que l'on est pris par toutes ces activités, et donc et là on réfléchit, bien sûr, à la notion de causalité, hein, en se disant, eh bien, au moment de ma mort, il n'y a que le dharma qui m'assure de ma liberté. Et donc voilà, ben finalement, même si ça dure une minute, eh bien c'est pas long, une minute, mais en même temps, eh bien c'est ce que l'on retrouve aussi dans un sutra où l'on dit combien est important, donc ce temps de réflexion, on pourrait dire, sur ce qui est vraiment fondamental et ultime.
De
nouveau, après, il y a une quatrième phrase dans ce texte des pratiques préliminaires. Ça correspond aux quatre idées fondamentales. Et la quatrième phrase, alors on reste de nouveau un petit temps de réflexion avec, et qui nous dit, eh bien, quatrièmement, les lieux, les bonheurs, les possessions, les richesses du cycle des existences nous tourmentent à travers les trois formes de souffrance. Ils sont comme des réjouissances offertes par le bourreau qui nous mène à l'exécution. Donc, je m'affranchis de tout attachement à l'égard de
finalement.
Donc voilà, et là on demeure un peu, on réfléchit, et puis finalement là ça nous fait penser à ce que Nagarjuna nous dit de toutes ces existences conditionnées. Et Nagarjuna qui dit, bien, même ce qui peut apparaître comme des existences extraordinaires, il fait, et là, bien sûr, référence aux états de Deva, aux états donc, de toutes ces existences favorables, les états humains aussi, évidemment.
Non, pas tout, mais non, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.
Et à cet égard, donc, Nagarjuna, pour battre en brèche, en fait, l'idée qu'il puisse y avoir une excellence en soi aux existences conditionnées, il dit non, parce qu'en fait, tout cela est aussi empli d'imperfections. Donc, observer ou prendre conscience du caractère limité, on pourrait dire, de ce qui est conditionné.
Mm.
Voilà, alors, bon, bien sûr, quand on parle de dharma, on peut toujours étudier les choses d'une manière très vaste et conséquente, il y a de quoi faire. Mais en même temps, du point de vue de la pratique, ben, c'est aussi la capacité, à travers quelques phrases, et d'ailleurs, ces textes de pratique sont là pour ça, donc se remémorer du sens essentiel, fondamental, et parce qu'ensuite, ben, on pourrait aussi être oublieux et du sens développé comme du sens condensé. Mais dans ce cas-là, c'est tout le dharma qu'on perd. Oui, par exemple, dans un texte de pratique, quand il y a l'énoncé de ces quatre phrases, comme on vient de le dire, là, le but, ben, justement, c'est de les énoncer, mais ensuite d'y réfléchir. Et donc, si on reste là un moment, c'est qu'on fait quelque chose. C'est pas que c'est une espèce de temps creux. Donc, ou alors, si c'est pour nous un temps creux, on pose la question. On se dit, ben, attendez, voir, pourquoi vous prenez du temps à quoi, là, au fait? Non, parce que si on croit que c'est juste un aspect rituel, ou à ce moment-là, dans le texte, ça veut dire qu'on se tait et qu'on reste un moment silencieux, c'est qu'on n'a pas très bien compris ce dont il est question à ce moment-là. Non. Donc voilà, pour dire qu'en plus, s'il se trouve que dans notre environnement, il y a des maîtres spirituels, ben, faut s'en servir. Ensuite, instruction d'après, les souffrances et les bonheurs des êtres étant le fruit de leurs actions passées, la loi de causalité doit être connue comme inéluctable.
Non.
Voilà, et là, comme cela est dit de manière très claire, hein, souffrance ou bonheur des êtres sont le fruit des actions passées. C'est manière de dire que tout acte vertueux mène au bonheur, tout acte nuisible mène à la souffrance. Non, là on parle d'inéluctabilité et c'est cela qui doit être reconnu, le fait que cela est inéluctable. Non. Mais bien comprendre aussi que, en fait, ça suppose que nous sommes acteurs des situations rencontrées. Ce n'est pas que donc quelqu'un d'autre pourrait développer une action que ensuite nous allons expérimenter. Nous expérimentons nos propres actes. Donc, bien sûr que nous pouvons rencontrer toute forme d'inimitié, de difficulté, avec donc soit des êtres, disons, de chair et d'os, soit sans forme, des ennuis intérieurs. Mais tout cela, eh bien, nous y participons dans le sens où il y a des actes produits par nous qui font que ces situations sont rencontrées. En même temps, ça fait penser à ces instructions qu'on trouve dans l'entraînement de l'esprit en 7 points, où l'on dit, certes, il y a, ou se manifeste à l'extérieur de soi quelque chose, par exemple, un ennemi qui va nous vouloir du mal, certes, mais en même temps, il faut bien que quelqu'un tienne la cible de la saisie du soi. Si personne ne tient la cible de la saisie du soi, la flèche lancée ne peut rien atteindre. Non, donc ici cette instruction, c'est dire en très condensé, ben finalement, tout ce qui surgit, bonheur ou souffrance, eh bien, est toujours le résultat d'actions composées, d'actions conditionnantes, et en ce sens, la loi de causalité doit être connue comme inéluctable. Ensuite, la souffrance engendre le dégoût du cycle des existences. Le dégoût ici, c'est vraiment la conscience profonde de ce qu'est une existence conditionnée. Et donc, dans ce sens, la souffrance doit être comprise comme étant un maître spirituel. Oui, parce que bien sûr. Alors, bien sûr, si on y réfléchit dans ce sens, eh bien, oui, ce qu'on appellera dukkha, c'est-à-dire la souffrance, mais alors sous toutes ses formes, c'est-à-dire liée à l'imperfection même des existences conditionnées que l'on rencontre, inévitablement, vu que nous sommes dans une existence samsarique, elle va nous faire vouloir aspirer à la sortie de la souffrance.
Et donc,
à partir de là, si l'on veut être libre de la souffrance, on va vouloir être libre du cycle des existences. En comprenant que si, tant que nous ne sommes pas libres d'une existence conditionnée ou des existences conditionnées, nous ne sommes pas libres alors de la souffrance. Là, à ce propos, il y a une parole du Bouddha qui est vraiment sans équivoque et qui dit « Il n'y a pas véritable bonheur au sein des existences cycliques, comme de la même manière, il n'y a pas de véritable bonheur aux excréments. » Véritable bonne odeur aux excréments. Non. Vraiment, si on manie des excréments, on le sait, hein, il va falloir être totalement propre, c'est-à-dire faire qu'il n'y ait plus aucune trace de cela pour que l'odeur avec disparaisse. Tant qu'il y en a, eh bien, il y a une odeur qui accompagne cela. Non, ça sent mauvais tant qu'on ne s'en défait pas. Et donc, une fois qu'on s'en est totalement défait, l'odeur désagréable disparaît avec. Mais tant qu'il y en a, eh bien, c'est à son
moment.
Oui, il utilise, donc le Bouddha utilise ces images fortes de la même manière en disant il n'y a pas véritable plaisir à mettre le pied sur une épine. Et c'est une manière toujours de parler de ces états conditionnés. Quand on parle des trois mondes d'existence, qui est une façon de parler des existences conditionnées, c'est lié à cela.
Non.
Mais bien sûr que l'origine, par contre, de la souffrance, ça nous fait revenir à la saisie du soi, et qui d'ailleurs est vue comme la souffrance qui pénètre et qui embrasse tout ce qui est composé, elle est liée directement, eh bien, elle est liée directement à ce qu'on appelle l'ignorance fondamentale. Et ensuite, eh bien, deuxième forme de souffrance, c'est la souffrance du changement. C'est le fait que, bah, tout simplement, tout change. Ensuite, il y a la souffrance effective, c'est-à-dire celle que l'on nomme souffrance, parce que c'est les choses désagréables que l'on vit. Et donc, toute existence conditionnée, lorsqu'on y réfléchit, eh bien, vont être marquées d'une manière ou d'une autre par ces trois formes de souffrance ou d'imperfection. Mais tout cela a pour but, lorsqu'on y réfléchit, eh bien, de faire naître le souhait de l'obtention de la libération.
Et donc,
Donc d'où la phrase que l'on peut alors comprendre comme étant donc le maître spirituel, quand on dit la souffrance peut être alors le maître spirituel. Oui, dans la mesure où elle nous permet de développer cette lassitude à l'égard du cycle des existences, et dans la mesure où elle nous permet d'aspirer à vouloir être libre des existences conditionnelles.
Ah, Deci, kurve tavrın dupe, şençe düdü hiperçası, kurve deva da deci de dungırgı, kurve deci de reva, dungırgı tava, tavay resi. De indi, kurve la şençin çakba da bongu resi.
La son. Ensuite,
şençe senge de düdü no hingaron.
La son. Non. Donc ensuite, les bonheurs et les plaisirs étant la racine du cycle des existences, les attachements doivent être connus comme étant des démons. Alors de nouveau, ici, il faut bien comprendre cette phrase. L'idée ici, et quand on parle de comme un démon, c'est-à-dire de nouveau, c'est le fait d'être entravé, le fait d'être soumis aux attachements que l'on peut nourrir à l'égard de tout ce que l'on croit être en soi plaisant, mais qui finalement n'est que conditionné. En fait, quand on parle ici de démons, c'est les Mara.
Pongbu de.
Donc c'est les quatre démons.
Pongbu de, Nyemje de de, Laipu de.
Non, c'est le démon des agrégats, donc le Mara, donc, oui. Démon des agrégats, démon de la mort, démon des émotions perturbatrices et démon fils des dieux. En fait, c'est simplement pour parler d'une forme de saisie du soi. En fait, là, bien sûr, qu'ils indiquent ce qui est, dit Lama, obstacle à l'obtention de la libération. Donc finalement ici, eh bien, donc voilà ce qu'il nous dit ici. Sachez que ces attachements à l'égard de ce que vous croyez être, on pourrait le tourner comme ça, être les bonheurs et les félicités, sont en fait la présence ou l'attachement même aux quatre démons. Donc dans ce cas, eh bien, c'est ce qui nous entrave.
Non.
Autre chose à connaître, c'est que les divertissements, mais dans le sens de Dudzi ici, ce qui nous détourne, ce qui nous perturbe en fait, nous distrait, crée les conditions nuisibles au dharma, et donc ces circonstances agréables dues à l'activité bénéfique passée doivent être connues comme étant des obstacles. Non. Donc, ce qui est dit ici, ce qu'il veut dire ici, c'est que nous devons être attentifs au fait que l'on peut très bien se dire, bah, finalement, les situations agréables que je rencontre sont le résultat de mes activités positives, certes, mais en même temps, eh bien, cela peut aussi être des circonstances qui nous rendent complètement oublieux du sens même du dharma, et dans ce cas-là, cela peut devenir obstacle. Dans le sens où on pourrait se dire, finalement, tout me réussit, c'est parfait, j'ai de la chance, mais cela dépend, parce que l'on peut aussi s'attacher à ce qui devient ou ce qui apparaît comme divertissant, et oublier le dharma, dans ce cas-là, c'est un obstacle.
Parçe sengede parçe gejurje kurmandope drage lamrhi parça sumre.
Mais en même temps, les obstacles sont utiles, et on le voit dans la phrase d'après. Les obstacles étant une incitation à la pratique de la vertu, eh bien les ennemis et les esprits malfaisants doivent être connus comme étant le maître spirituel. Non, ça a priori c'est clair.
Ton tempère, tu es tempé, rongi mepare, dupe, on la yang, nyombani, de chitopati.
Ensuite, en vérité ultime, eh bien, toute chose, c'est-à-dire ultimement parlant, toute chose étant dépourvue de nature propre, donc libre d'existence propre, quoi qu'il advienne, eh bien, toutes choses doivent être reconnues comme égales, c'est-à-dire comme de nature égale, dans ce sens.
Je suis comme dire, j'en ai dit, mais pas de pèse, tu vois.
Là,
j'en ai dit, mais pas de matin, pas de voir, mais j'en ai dit, mais pas de pèse, qu'on a yon, de tout, chaque don, de on de ton Dieu, on m'a laissé.
Là,
qu'on n'a pas de pèse.
Donc, en fait, dilemma, bah, ça veut dire que les bonheurs comme les souffrances, ce à quoi nous nous attachons ou ce à quoi nous ne voulons pas nous attacher, quoi. Bref, finalement, toute chose, à partir de cela, c'est-à-dire à partir de cette vérité ultime que l'on reconnaît, eh bien, peut s'établir dans la grande égalité, c'est-à-dire dans une forme d'équanimité. Non. Voilà. Et donc, pour l'auteur, c'est la manière de conclure avec cela, les 10 choses à connaître. Voilà, alors maintenant, les connaissez-vous? Ou les connaissons? Les connaît-on? Voilà, ensuite, d'autres instructions, ce sont les 10 choses à pratiquer. Première des choses, s'étant engagé sur la voie du dharma, sans se joindre au troupeau des profanes, il faut pratiquer selon le dharma.
Ça peut arriver.
Non, oui, non. Non, c'est clair, oui.
Payer pone meilleur to, je m'entends pas, changer de nuance dans.
Ensuite, ayant abandonné le pays de ses pères, mais le pays de ses pères, c'est aussi le pays de ses attaches, sans s'enraciner de nouveau parmi les hommes, dans le sens, dans d'autres formes d'attachement, on pourrait dire, pratiquer alors le non-attachement ou être libre des entraves.
Hakudo ?
Là, vous, c'est clair ?
Oui.
Oui, bien sûr, pas hésiter.
On a parlé tout à l'heure de l'attachement.
Oui.
Des fois, il y a des souvenirs qui viennent inattendus, ou alors une soif de reconnaissance, par exemple par sa propre famille, avec qui on n'a pas plus de rapport, c'est mon cas. Et puis, de dire, malgré tout cet enseignement, finalement, il y a une nostalgie qui vient, surtout en général à Noël. Alors, dans les films, tout se passe bien. Et là... Oui, non, bien sûr, c'est triste. Mais dans ce cas, si... Voilà, en étant un pratiquant du dharma, on se dit, j'ai plus de famille. Non, on peut aller plus loin, on peut se dire, c'est parfait. C'est-à-dire que finalement, de cette famille-là, j'en ai pas vraiment besoin. En fait, la famille que j'adopte, alors, eh bien, c'est la famille de tous les bodhisattvas, de tous les bodhisattvis, c'est la famille des bouddhas. C'est ça, ma famille.
C'est un premier homme, allez.
Voilà, faire en sorte de... Ouais, ne pas être triste. Oui, à pas être triste dans la mesure où on se souvient que, notre famille... notre famille ordinaire, ce n'est pas forcément celles et ceux qui vont nous tirer vers le haut et qui vont nous amener à la libération. C'est souvent le contraire. C'est souvent aussi le lieu de ce qui va nous maintenir, de ce qui va nous entraver aussi.
Non.
Alors après, on peut bien sûr aussi voir ça autrement, et puis se dire, bah, finalement, ce qui m'importe, c'est de créer des liens d'harmonie avec bah, les personnes avec qui cela est possible. Et puis ma famille, elle va exister aussi au sein de cela, c'est-à-dire au sein des liens harmonieux que je peux développer.
Tu n'as ce dans ce tu n'as non mais pas.
Non.
Maintenant, pas mal de choses pour que il n'a maintenant non mais c'est dans un long que tu es simple de y avoir pas.
Non. Oui, là à un moment donné, on peut aussi décider que bien notre famille, elle va exister là où il y aura ces liens harmonieux. Et s'il n'y a pas de liens harmonieux au sein de notre propre famille, on pourrait dire famille naturelle, bon, ben dans ce cas-là, au bout d'un moment, maintenir cet attachement ou ces attachements que nous avons à l'égard de cette famille, s'il n'y a pas là les conditions de cette harmonie, elle n'est pas notre famille au bout d'un moment.
En tout
cas, voilà comment moi je vois les choses. Hein, ou comment je les verrais, dit-il, dans une telle situation. Voilà, donc on poursuit les 10 choses à pratiquer. La troisième, s'en étant remis à un saint maître spirituel, il faut, abandonnant tout orgueil, alors pratiquer selon ses instructions. Ensuite, de nouveau, c'est de bon sens. S'étant entraîné à l'écoute et la réflexion, on sous-entend du dharma, eh bien, sans parler de ce que l'on ne connaît que théoriquement, il faut pratiquer ou mettre en œuvre en prenant pour base ses connaissances. Voilà, là c'est une manière de rappeler ce qui est tout à fait essentiel dans la démarche spirituelle, c'est-à-dire au départ, eh bien, écouter vraiment et ensuite nourrir notre réflexion sur la base de ce qui est entendu. Et donc là l'idée, c'est que ce sens qui est contenu dans la réflexion qu'on nourrit, eh bien, ce n'est pas un sens qui doit rester théorique, c'est un sens qu'il nous faut tâcher de mettre en œuvre, en pratique, et donc faire que cela serve à cela. Ce qui ne veut pas dire que la connaissance théorique n'importe pas, au contraire, mais à elle seule, elle ne suffit pas. Il faut vraiment que cela nous soit utile. Et pour que cela nous soit utile, il nous faut vraiment nous pénétrer du sens. Ensuite, la réalisation s'étant élevée dans l'esprit, donc à partir d'ailleurs justement cette réflexion et de cette écoute, réflexion est mise en œuvre. Donc la réalisation s'étant élevée dans l'esprit, sans s'enliser dans l'indifférence et la négligence, c'est-à-dire sans s'enliser dans le fait de peu en prendre soin, en fait, pour continuer à pratiquer avec vigilance. Là, ici, c'est dire ben, ce à quoi nous accédons, qui peut être une forme de réalisation aussi, pourquoi pas. Il nous faut continuer à la cultiver. Sinon, si l'on ne cultive pas ce que l'on comprend, eh bien, ou ce que l'on réalise, eh bien, cela peut aussi tout à fait disparaître. Ensuite, l'expérience de la méditation étant née en nous, il nous faut pratiquer sans s'abandonner aux distractions des foules.
Non.
Voilà, là, une fois que l'on est engagé par des promesses, on veut dire par là, quand nous sommes, on s'est formellement, par exemple, engagé à l'égard d'un maître spirituel à l'accomplissement de telle pratique ou telle autre, eh bien, sans laisser aller le corps, la parole et l'esprit à la négligence, c'est-à-dire de nouveau, sans, en continuant à développer. À développer attention et présence, eh bien, pratiquer les trois instructions, ces références au développement de l'éthique, le développement de l'esprit et le développement de la sagesse. Les trois instructions, ou en trois entraînements, c'est l'entraînement à la conduite éthique, l'entraînement à l'absorption méditative, ce qui concerne l'esprit, et l'entraînement à la connaissance transcendante ou la sagesse. Ensuite, lorsque l'on a développé le sublime esprit d'éveil, c'est-à-dire cette attitude altruiste, sans se préoccuper de son propre sort, quoi que l'on fasse, il faut pratiquer alors pour le bien d'autrui. Là, c'est clair, hein, a priori. Hein?
Oui, non.
Ensuite, quand on est engagé, on s'est engagé dans la voie des mantras, c'est-à-dire le Vajrayana, en fait, ou le Mantrayana, sans laisser le corps, la parole et l'esprit, alors là, hein, sanctifié dans le sens, dans notre perception ordinaire, on pourrait dire, eh bien, il nous faut pratiquer la méditation sur les trois mandalas. Voilà, là je demande au lama une petite explication sur la notion de trois mandalas. Et donc, au sein des pratiques du bouddhisme tantrique, ça signifie qu'on va considérer la parole dans la dimension de la parole liée à la déité, le corps dans cette dimension liée au corps de la déité, et l'esprit dans cette dimension liée à l'esprit de la déité. Non, l'idée, en fait, c'est que quelle que soit la pratique de Yidam ou des déités tutélaires qu'on pratique, ça peut être Chenrezi, ça peut être Amitabha, ça peut être le Bouddha de médecine, Sangyemenla, ça peut être Tara, on va, par exemple, constamment considérer notre propre corps comme étant le corps de la déité. Ça veut dire que nous nous entraînons aussi à percevoir le lieu dans lequel nous demeurons comme étant le palais incommensurable de la déité. Les sons que nous entendons, nous nous entraînons à les percevoir comme étant le murmure du mantra de la déité.
tene pao pamo rongi ke namba la to ma to ke tene tamar be ndishi me ba ji kore
somo. Et tout l'entourage, toutes celles et ceux qui nous entourent, on va les percevoir non pas comme des êtres ordinaires, mais comme assemblées de bodhisattvas, bodhisattvies, de déités, finalement. Et donc, nous ne laissons rien dans une perception ordinaire.
Non.
Et quand on parle du mandala de l'esprit, ça signifie en fait être dans, on pourrait dire, de nouveau dans cette qualité de non-distraction.
Non.
Non. C'est en même temps le samadhi, ce qu'on appelle tingen zin, ça veut dire tingen, c'est dans le sens de cette profondeur, on pourrait dire, et zin, ça veut dire qu'il ne se départit pas. Donc là, ça veut dire que l'on maintient cette qualité d'absorption.
Non.
Ce dont il est question ici, c'est donc ne pas, alors qu'on s'est engagé dans ces pratiques tantriques, eh bien finalement laisser les perceptions dans leur perception ordinaire. C'est ok. Bon, c'est un point un peu technique, mais... Oui.
Moi, j'ai du mal à ramener ça à la permanence, à la vacuité, ce qui est entièrement.
Oui.
Là, ça croise pas.
Oui, d'accord, oui, oui. Yena yantene ta ta chin jevala tene pe na mitak pa tang tong pa ni kola tene ngatso kecha she songa tene tanda tene ikchil koro sum tene delwa kante yene
te tanda ngaro ke sege de ba ti thoda na chonchup chodo sem kene ese chonchup chodo sem kene kene rong ton dubya mare chonchup semche sen ke gendong ke dubya ke ja de rondon ke ke ja mare se
no
ke ke na chonchup jo de semche ne rondon me je par ngaru ke chaba le ka kar ke na yin je ton ton be so che gure song so a
te
chonchup jo de semche be kap ke ja re wa
no. Ben, en fait, c'est... En même temps, ça indique des étapes, hein, ça indique des moments différents. Par exemple, dans l'instruction avant, on parle de cet esprit d'éveil, et on dit qu'à partir du moment où il nous dit qu'à partir du moment où nous avons développé l'esprit d'éveil, eh bien, l'on ne se préoccupe plus alors de son bien propre, et tout acte est alors au service d'autrui, et très naturellement, vu que l'esprit d'éveil s'est placé. Mais ça ne veut pas dire que tout se mêle tout le temps, parce qu'il y a des moments aussi. Mais en même temps, imaginons quelqu'un, c'est tout à fait faisable, qui ne s'engage pas dans les pratiques tantriques. Dans ce cas-là, eh bien, il s'engage dans la voie du Mahayana, du développement de l'esprit d'éveil, et il peut en rester strictement là, et c'est parfait.
Non.
Il faut toujours en même temps se souvenir que le Bouddha, il enseigne finalement différentes approches. C'est ça, les trois véhicules. Non. Non. Véhicule des auditeurs, premier véhicule. Véhicule des bodhisattvas, bodhisattvies. Et véhicule du Vajrayana, véhicule tantrique.
C'est à Tchigyori.
Non. Voilà, c'est une manière de parler de trois véhicules, mais on peut aussi en parler comme véhicule des réalisateurs solitaires, véhicule des bodhisattvas, véhicule
tantrique.
Non. Alors après, on peut faire des différences. Par exemple, pour le véhicule des auditeurs, on pourra faire une distinction entre les Shravaka et les Pratyeka Buddha. Et qui sont donc tous à peu près des auditeurs, mais avec l'idée qu'un réalisateur solitaire, un Bouddha solitaire, on pourrait dire, a une plus grande connaissance ou sagesse qu'un simple auditeur. Non. Ou alors, en termes beaucoup plus simples, on parle encore de petits véhicules et grands véhicules, par exemple. Non. Mais attention. Attention, ça ne veut pas non plus dire qu'on dit petit véhicule comme si c'était petit dans le sens propre. C'est simplement en termes de motivation. Mais c'est un grand véhicule aussi. Non.
Non.
Non. Non, non, bah parce que, attention, il ne faudrait pas s'imaginer, par exemple, que l'on est engagé dans le Mahayana et que donc on n'a rien à voir avec le petit véhicule. Pas du tout. Il est la base fondamentale de toute la démarche spirituelle.
Non,
il faut vraiment faire attention avec ces termes, parce que ça pourrait faire croire que le petit véhicule est donc pas important, donc on peut le laisser de côté, puis le grand véhicule c'est beaucoup plus grand, puis alors encore plus avec le Vajrayana. Non, pas du tout. C'est au contraire, c'est des démarches qui s'imbriquent les unes dans les autres. Donc le Mahayana prend place au cœur même du petit véhicule, et d'autant plus le Vajrayana prend place au cœur même du Mahayana et du Hinayana.
Non.
Ce qui caractérise surtout le Hinayana, c'est ce qu'on appelle sotar, c'est-à-dire en fait les lieux, les vœux de libération individuelle. On pourrait même, en fait, ce qui est expliqué par rapport au Hinayana, c'est que c'est une démarche complète en soi, mais enseignée pour celles et ceux qui, pour qui l'idée d'agir comme un bodhisattva, comme une bodhisattvi, est vraiment, leur semble inatteignable. C'est-à-dire que d'autant plus quand le Bouddha se met à expliquer ce que veut dire l'activité d'un bodhisattva, d'une bodhisattvi prêt à offrir complètement son corps à tous les êtres, pour le bien de tous les êtres, à offrir, pourquoi pas, sa tête, ses membres, vraiment à faire offrande complète de son corps au sens propre, comme d'ailleurs au sens figuré dans certaines histoires. Tout cela peut paraître absolument inatteignable. Donc dans ce cas, pour dire non, l'éveil est atteignable, mais il est aussi atteignable d'une autre manière. Et donc, il enseigne alors le Hinayana.
Non,
d'autant plus que du fait de cette démarche donc du Hinayana, donc aspirer à sa libération propre, individuel, on pourrait dire, place quand même l'individu hors du cycle des existences, c'est-à-dire en un état de réalisation où il ne redescend plus, on pourrait dire, où il n'est plus pris, en fait, plus exactement, dans les états conditionnés. Après, du point de vue du Mahayana, ce qui peut y avoir de problématique, c'est que pendant longtemps, finalement, il peut y avoir on pourrait dire un manque d'action pour le bien d'autrui, et ceci pendant très longtemps, même des airs cosmiques, du fait même de ce nirvana dans lequel l'individu s'installe. Par contre, c'est vraiment à ce stade déjà l'abandon de tout ce qui, même sous forme infime, pourrait être cause de nuisance pour un être. Donc, à ce moment-là, il n'y a finalement que la vacuité qui est contemplée, mais alors de manière excellente. En fait, on pourrait dire que le Mahayana vient se développer sur la base de cet abandon complet et total de tout ce qui pourrait nuire à un être. Et donc sur cette base, c'est pas seulement souhaiter, ou même plus que souhaiter en l'occurrence, c'est-à-dire ne pas nuire à un être, mais en plus agir pour le bien des êtres. Donc d'où l'idée ensuite qui se développe avec le Mahayana. Voilà, après, le Vajrayana est particulier dans le sens où peu sont les Bouddhas, ou peu nombreux sont les Bouddhas qui l'ont enseigné. Le Bouddha Shakyamuni est un des très rares Bouddhas à avoir enseigné le
Vajrayana.
Voilà, mais bon, là, c'est des immenses histoires. Je ne les connais pas en plus, forcément, ni là-bas. Mais bon, bref. Ça nous amène trop loin. Non, il vous faut des érudits qui peuvent vous parler de ça de manière interminable. Non, sans être cet érudit-là, difficile de vous en parler vraiment.
Jumpe, tiso, tome, santa, mekorva. Shinye, tombe, shabjonto, katup, kabache, goris, katup, nyansanons.
Long. Ensuite, dernière instruction ici, parmi ces 10 choses à pratiquer, dans notre jeunesse, sans vagabonder au loin sans raison, il nous faut pratiquer les exercices spirituels au pied d'un saint maître spirituel.
Tene, nyansanonje, tu yinansanre.
Et voilà, ce sont donc les 10 choses à mettre en œuvre ou à pratiquer.
Okay.